Place maintenant au journal des Amériques et d'Haïti en compagnie d'Anne Verdaguer. Anne, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de cette réforme du planning familial aux États-Unis qui compte empêcher l'accès à l'information sur l'avortement. Une réforme portée par le président Donald Trump qui priverait ces centres d'accueil de 286 millions de dollars de fonds s'ils ne se conforment pas à la loi. Plusieurs États américains ont porté plainte. On reviendra avec Anne Corpé, notre correspondante à Washington, sur les enquêtes lancées par le Congrès sur de possibles délits commis par le président américain. Au Canada, les ennuis de Justin Trudeau, ou plutôt la crise politique sans précédent qui secoue son gouvernement avec des démissions en chaîne suite aux accusations d'ingérence du Premier ministre dans une procédure judiciaire. Et puis du cinéma aujourd'hui avec ce film hors norme, véritable marathon cinématographique, La Flore de l'Argentin Mariano Lignas qui dure 14 heures. C'est donc une coalition de 21 États américains qui ont porté plainte cette semaine contre l'administration Trump pour bloquer sa réforme anti-IVG du planning familial. Cette réforme interdit aux cliniques subventionnées par le gouvernement d'informer leurs patientes sur leur droit à l'avortement sous peine de perdre les fonds fédéraux. La plainte collective a été lancée par la Californie qui en est à sa 47e action en justice contre le gouvernement Trump. La Californie qui espère empêcher l'entrée en vigueur de cette réforme que son procureur général qualifie d'illégale et même de dangereuse. La correspondance à San Francisco d'Éric de Salve.
Cette réforme du planning familial est surnommée par ses opposants la loi du bâillon. Décidée par l'administration Trump, elle interdit en effet aux médecins de parler d'avortement ou même d'informer les patientes sur leurs droits ou possibilités d'interruption de grossesse sous peine de ne plus recevoir d'argent du gouvernement. 600 cliniques sont concernées. Chaque année, elles bénéficient de 60 millions de dollars de subventions fédérales, des fonds qui pourraient être reversés à des centres gérés par des groupes anti-IVG, chrétiens et conservateurs. Chaque année, 4 millions de femmes bénéficient de ce programme de contrôle des naissances baptisé Title X et lancé sous Nixon en 1970 pour les foyers à bas revenus. Un quart de ces femmes sont californiennes. Une fois de plus, la Californie, qui en est déjà à sa 47e action en justice contre l'administration Trump, lance donc la charge. Une vingtaine d'organisations médicales portent plainte également, tout comme le planning familial, dont la présidente dénonce une loi du bâillon de l'administration Trump contraire à l'éthique et nuisible à la santé publique. Éric de Salve, San Francisco, RFI.
Bonjour Marie Normand.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous nous avez rejoint pour la revue de presse des Amériques et on reste aux États-Unis où la Chambre des représentants doit se prononcer demain, jeudi, sur le vote d'une nouvelle résolution condamnant l'antisémitisme. Cela fait suite aux propos tenus par la démocrate Ilhan Omar, la seule élue voilée du Congrès. Elle avait dénoncé la semaine dernière l'allégeance à un pays étranger de certains lobbyistes et responsables politiques en référence à Israël.
Oui, et le New York Times explique que cela suscite des débats à la Chambre en ce moment entre les jeunes élus démocrates et leurs aînés, un fossé idéologique et générationnel qui s'est creusé ces derniers jours et qui menace d'éclipser l'agenda législatif du parti. D'un côté, des démocrates chevronnés qui dirigent tous les grands comités de la Chambre, ils sont tous juifs et se sont donc levés pour réclamer cette résolution. De l'autre, des membres plus jeunes et des groupes libéraux comme If Not Now, un mouvement de jeunes juifs qui veut mettre fin à l'occupation israélienne de la Cisjordanie. Ils accusent les dirigeants démocrates de cibler une femme musulmane tout en laissant glisser des commentaires de républicains qu'ils jugent racistes ou antisémites, beaucoup venant d'ailleurs du président Trump lui-même. Ce dernier s'est d'ailleurs engouffré dans ce débat mardi en parlant de jours sombres pour Israël, ce qui n'a fait qu'attiser les flammes.
Direction maintenant le Nicaragua, Marie, qui est plongée dans une grave crise politique depuis avril dernier. Hier soir, le gouvernement de Daniel Ortega et l'opposition ont annoncé avoir conclu, avec la médiation du Vatican, un accord sur une feuille de route pour des négociations.
Oui, un accord en 16 points qui stipule les règles du jeu, écrit La Prensa. Après plusieurs refus, l'Alliance civique pour la justice et la démocratie, le mouvement qui coordonne cette opposition, est finalement parvenu à imposer ce qu'il voulait, à savoir la participation de 3 évêques aux négociations, notamment l'archevêque de Managua, Leopoldo Brenes. Ces derniers doivent donner leur réponse vendredi. Une invitation a aussi été lancée au pasteur Ulysses Rivera, c'est le coordinateur des églises évangéliques du Nicaragua, réputé plus proche du pouvoir, celle-là. Voici quelques points de cette feuille de route. Anne, les téléphones portables pourront être utilisés, mais il n'y aura pas de photos, de vidéos ou encore d'enregistrements. Les réunions se tiendront tous les jours de 10h à 16h du lundi au vendredi, avec une date butoir pour conclure ces négociations. Ce sera le 28 mars.
Au Canada, on en parlait, la presse continue d'évoquer la crise politique qui secoue le gouvernement de Justin Trudeau.
Oui, crise, vous l'avez dit, liée à des accusations d'ingérence du Premier ministre et de son entourage dans une procédure judiciaire pour éviter un procès au géant des travaux publics, SNC-Lavalin. Lundi, la ministre du Budget a démissionné. C'est la troisième déjà à quitter le gouvernement. Gouvernement menacé d'une crise de confiance, écrit le Globe and Mail. Pour le quotidien anglophone, en 4 semaines, tout a changé avec ses démissions. Mais finalement, rien n'a changé car M. Trudeau n'a toujours pas répondu aux allégations en détail. Il a qualifié l'affaire de malentendu, a essayé de passer à autre chose. C'était une mauvaise idée il y a 4 semaines et maintenant, estime le journal, c'est une illusion. Cette non-réponse pour le Globe and Mail porte atteinte à son autorité même. Il a encore le temps de relever ce défi, mais il a déjà perdu 4 semaines. Cette prise de parole de Justin Trudeau pourrait intervenir ce mercredi, croit savoir Le Devoir, car hier, mardi, le Premier ministre a annulé un rassemblement partisan pour rencontrer ses conseillers. 2 personnes, un ancien conseiller et un ami personnel de Justin Trudeau et le greffier du conseil privé, doivent être entendus aujourd'hui par le comité permanent de la justice.
On reste au Canada, Marie, avec la décision de plusieurs radios québécoises de retirer les chansons de Michael Jackson de leur programmation.
Oui, C'est quoi, Rhythm FM, The Beat, 3 radios ont pris cette décision à la suite de la diffusion d'un documentaire aux États-Unis dimanche soir. Il s'appelle Living Neverland et 2 hommes y accusent le chanteur de leur avoir fait subir des abus sexuels lorsqu'ils étaient mineurs. Quelques coups de pioche supplémentaires dans cette statue du roi de la pop qui s'effrite, écrit Le Devoir. Les entreprises culturelles marchent sur des œufs en ce moment, explique Le Quotidien. La plupart des radios sont en réflexion quant à leur programmation musicale et le Cirque du Soleil reste muet quant au maintien ou non de son spectacle hommage à Michael Jackson.
Merci beaucoup Marie Normand pour cette revue de presse des Amériques. Et on retourne aux États-Unis où Donald Trump a fustigé l'enquête lancée par la commission judiciaire de la Chambre des représentants dominée par les démocrates. Cette chambre a sollicité pas moins de 81 personnes ou entités de lui envoyer divers documents relatifs à de possibles délits commis par le président et son entourage. Le président américain qui avait d'abord réagi avec calme à ces requêtes, mais hier matin, il s'est visiblement réveillé en colère. Anne Corpé, notre correspondante à Washington.
Oui, et le signe qui ne trompe pas, c'est l'emploi de lettres majuscules dans la rédaction de ses messages sur Twitter. Harcèlement du président, écrit Donald Trump en capitale d'imprimerie, et il ajoute « Les démocrates ont perdu la tête, ils sont devenus fous, ils mènent le plus grand abus de pouvoir de l'histoire des États-Unis ». Plus tard dans l'après-midi, calmé, le président a estimé que les démocrates étaient entrés en campagne, qu'ils n'avaient pas digéré leur défaite de 2016. Au lieu de travailler sur des projets de loi, ils s'occupent de ces histoires sans aucun sens. C'est une honte pour le pays, a-t-il déclaré.
Dans un premier temps, Donald Trump avait pourtant assuré qu'il allait coopérer avec la Chambre des représentants, Anne.
Oui, et le ton a clairement changé en 24 heures. Un conseiller de la Maison-Blanche a qualifié ce mardi de sans précédent et d'extraordinairement intrusive les demandes de la commission de contrôle de la Chambre qui réclame, elle, à la Maison-Blanche, tous les documents relatifs à l'accréditation sécurité de Jared Kushner. Donald Trump est soupçonné d'avoir outrepassé les directives des agences de renseignement pour que son gendre obtienne ce sésame. Mais refuser de livrer les documents demandés n'est pas sans risque. Les commissions parlementaires ont le pouvoir d'assigner à comparaître les personnes qu'elles souhaitent entendre et les démocrates ont menacé d'avoir recours à ces convocations s'ils n'obtiennent pas les documents qu'ils réclament. Ils cherchent les preuves d'une possible obstruction de la justice, de faits de corruption et d'éventuels abus de pouvoir de Donald Trump. 3 commissions parlementaires ont par ailleurs demandé à la Maison-Blanche de fournir les rapports détaillés sur les échanges qui ont eu lieu entre le président américain et son homologue russe, Vladimir Poutine.
Voilà, les parlementaires qui enquêtent donc également sur les terres du procureur spécial Robert Mueller qui travaille depuis près de 2 ans sur d'éventuelles ingérences russes dans la campagne.
Oui, ils disent que leur enquête peut être complémentaire à celle de Robert Mueller et surtout, ils veulent pouvoir mettre leurs conclusions à la disposition du public. Lors de son audition de confirmation devant le Sénat, le nouveau ministre de la Justice a en effet refusé de s'engager sur la publication de l'intégralité du rapport du procureur. Alors, on ne sait pas quand il sortira, mais les démocrates veulent pouvoir communiquer au maximum sur ce sujet et la meilleure manière pour cela, c'est de disposer de leurs propres ressources.
Anne, est-ce que ces enquêtes parlementaires peuvent déboucher sur une procédure de destitution du président américain ?
Théoriquement, oui, puisque c'est la commission judiciaire de la Chambre qui a le pouvoir d'entamer cette procédure. Mais pour l'instant, les démocrates se gardent bien de l'envisager ouvertement. Ils savent très bien que c'est une manœuvre très risquée sur le plan politique. Elle risquerait de faire passer le président pour une victime, de souder autour de lui le camp républicain et d'éloigner l'électorat centriste. C'est un peu ce qui était arrivé à Bill Clinton à la fin des années 90. Vous vous en souvenez, les républicains avaient lancé une procédure de destitution contre lui, mais ils n'avaient pas abouti. Et ils avaient perdu des sièges lors du scrutin qui avait suivi.
Merci Anne Corpé, notre correspondante à Washington.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
En Haïti, comme chaque année, le chanteur Bello va offrir avec quelques-uns de ses amis artistes un concert aux femmes qui sont incarcérées à l'unique prison pour femmes du pays. Par tradition, ce cadeau était offert aux détenus le 14 février pour la Saint-Valentin, mais les violentes manifestations cette année ont contraint l'organisation à décaler l'événement au 8 mars, journée des droits de la femme. Ce vendredi est donc prévue la 8e édition des Femmes à aimer à la prison de Cabaret. Au micro de notre correspondante Amélie Baron, Bello nous explique comment l'idée lui est venue.
J'ai visité une amie et j'ai vu la condition dans laquelle les femmes étaient et je me suis dit, tiens, je dois faire quelque chose. Et qu'est-ce que je peux faire? Bon, je suis musicien, je vais commencer déjà par prendre ma guitare et aller faire un concert. Je suis allé seul avec mon manager, quelques amis et on a fait un concert. Et l'accueil qu'on a eu a fait que j'ai décidé que ça allait être un projet annuel et que ça ne devait pas s'arrêter. Et d'année en année, ça prend forme. Il y a des partenaires, il y a des amis, il y a surtout la participation des femmes. Et c'est ce qui me donne le plus envie d'organiser ce truc, puisque chaque année, depuis la 2e édition, c'est elles qui font la décoration et elles donnent des prestations. Tu sens vraiment que, voilà, c'est important pour elles. Et une autorité de la prison civile m'a confié que 4-5 semaines avant Femmes à aimer, on a un climat, mais vraiment de bon enfant dans la prison, parce que personne ne veut rater ça, en fait. Et quelques semaines après aussi, tout le monde est encore dans la digestion de ce qui s'était passé, et donc voilà.
Mais cette année, ça ne s'est pas fait le 14 février, la Saint-Valentin, comme traditionnellement, ça va se faire le 8 mars pour la journée des droits des femmes. Les circonstances sont ce qu'elles sont.
Ben, les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu faire le projet cette année, mais que les femmes, elles ont demandé à ce qu'on le fasse le 8 mars. Elles ont proposé cette date et donc je ne saurais dire non. Tout est fin prêt. Ben, enfin, tant que je suis là et que ma guitare est accordée, et donc voilà.
Il y a quand même aussi un appel à contribution parce que, en plus du concert, il y a des dons aussi pour ces personnes parce que les conditions, comme tu le disais, dans les prisons ne sont pas optimales. Il y a des manques. Cruel.
En fait, l'appel à contribution, ça a deux connotations. Il y a effectivement un besoin en dentifrice, serviettes hygiéniques et tout, mais qui vont durer une semaine ou deux. Mais il y a aussi et surtout un appel à la conscience des gens que, voilà, derrière ces murs, il y a des femmes, il y a des gens, des humains, et qui sont dans des conditions pas toujours idéales. Il y a surtout des femmes qui attendent un jugement depuis des années. Moi, ça fait 8-9 ans qu'on va là-bas et chaque année, on voit les mêmes visages et on entend les mêmes plaintes. Et donc, ce projet a quand même une face cachée qui est de faire lumière sur certains points et sur la condition des détenus en Haïti, la détention préventive prolongée, comme on appelle ça ici, des fois trop prolongée. Et donc, l'un des objectifs de ce projet, c'est de justement toucher la conscience des autorités compétentes pour que, voilà, cette histoire de détention préventive prolongée en Haïti, qu'on a fini avec ça.
Justement, d'année en année, que vous disent les autorités? Parce que chaque année, effectivement, ces mots, on dit ça même comme aujourd'hui sans y penser, détention préventive prolongée, donc des gens qui attendent des années avant d'avoir vu même un avocat ou un juge. Qu'est-ce que les autorités disent, puisque d'année en année, le problème persiste?
Pour avoir fréquenté les autorités pénitentiaires, en tout cas pendant ces 8 dernières années, j'ai compris que le problème n'était pas une personne, c'est un système en fait. C'est un système qu'il faut revoir parce que peut-être qu'il y a un problème de volonté, peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait pas bien son travail. Et donc voilà, on essaye de trouver c'est quoi le vrai problème.
Voilà le chanteur Bello avec notre correspondante à Haïti, Amélie Baron. Un mot de cinéma à présent avec ce film hors norme, véritable marathon cinématographique, La Flore de l'Argentin, Mariano Lignas, qui dure 14 heures pour suivre les aventures rocambolesques de quatre héroïnes à travers l'Amérique latine et l'Europe de la guerre froide. Un film qui a enthousiasmé les spectateurs depuis sa première au festival de Locarno l'été dernier, qui sort ce mercredi en salle en France. Elisabeth Le Carré.
4 parties, 6 épisodes, 10 ans de tournage. Une histoire qui emprunte aux films d'espionnage, d'horreur, à la comédie musicale, au mélodrame. Une forme exubérante qui court d'un continent à l'autre et enjambe les époques. C'est La Flore, projet pharaonique et loufoque, initié en 2009 par un jeune cinéaste tout aussi désargenté que brillant, Mariano Lignas. Dans La Flore, les histoires se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a une momie qui se réveille et retrouve son aura maléfique, une araignée qui donne des super-pouvoirs, une jeune fille timide qui va devenir la reine de l'espionnage dans l'Angleterre de Thatcher, une autre guérillera se fait retourner par des agents de la CIA. Ces histoires, on se perdrait à toutes les raconter. Alors disons simplement que La Flore nous ramène au premier temps du cinéma et renoue avec le plaisir de raconter celui des grands romanciers sud-américains, Julio Cortázar ou Borges, dont l'auteur se revendique. Si c'est un film fleuve, c'est un fleuve bouillonnant, débordant d'idées. La Flore a reçu le prix du meilleur film argentin au BAFICI, le grand festival de Buenos Aires.
Merci Elisabeth Le Carré. Tout de suite l'actualité ultramarine. Avec le journal La Première Caraïbe, présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
Aux Antilles et en Guyane, les festivités carnavalesques prendront fin ce mercredi soir avec la mise à feu du roi Vaval.
Oui, le roi de la fête va finir en cendres, puisque tel est son destin et que nous sommes le mercredi des cendres, dernier jour avant le début du carême pour les chrétiens. Cet après-midi, ce sera donc à Fort-de-France l'ultime défilé avec deux couleurs dominantes, le noir et le blanc. Explication Claude Gracien.
Les carnavaliers seront en noir et blanc en signe de deuil et la rue appartiendra entre autres aux diablesses. Les diablesses en costume traditionnel noir et blanc avec une chaussure noire, une chaussure blanche vont défiler avec leurs feuilles de corossol comme pour apaiser la peine des carnavaliers. C'est, dit-on, la veuve joyeuse, éplorée de Vaval. Selon la légende, la diablesse est une séductrice qui a un pied en forme de sabot, de chèvre ou de cheval. Elle séduit les hommes par ses charmes, les entraîne dans la forêt et les fait disparaître. Et puis, il y a celles qui accompagnent le roi Vaval pour son dernier voyage. Ce sont les pleureuses. Vous l'avez sûrement remarqué, ce sont souvent des hommes déguisés en femmes et qui vont de leurs sanglots bruyants, de leurs cris de détresse à la fin proche de Sa Majesté Vaval, dont elle parodie souvent l'enterrement dans la rue avec la complicité de faux prêtres et de leurs encensoirs. Vaval brûlé, autre référence au rite catholique, expliquent des spécialistes, dans lequel l'homme est condamné à redevenir poussière après avoir péché.
Un tout autre sujet maintenant avec l'entrée hier dans le port de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe du Fort-de-France, le premier des 4 nouveaux porte-conteneurs de la compagnie CMA-CGM, 4 navires flambant neufs et qui desserviront exclusivement les Antilles françaises. Franck Piot a remorqué hier le Fort-de-France, il est au micro d'Éric Stimfling.
Très bon bateau, très performant, très bonne machine. J'ai croché le remorqueur à l'arrière parce que c'était la première escale. Il est équipé d'un propulseur avant et d'un propulseur arrière. Par de bonnes conditions, je pense qu'on peut fonctionner sans remorqueur. Ce bateau très large, hein, il fait 36 mètres de large. Les bateaux habituels escalant à Pointe-à-Pitre font 32 mètres. Passerelle ultra moderne, navire équipé avec les dernières technologies. Équipage, le commandant, le chef et le second capitaine sont français, ils sont déjà venus sur la ligne. Donc on peut être serein pour les escales à venir et le bateau est parti pour 25 ans. C'est une nouvelle page pour la Guadeloupe et pour la CGM. Très beau bateau, on est très content de les recevoir. Il y a 850 prises frigo à bord, ce qui oblige à charger beaucoup de bananes, donc voilà, aux planteurs de remplir le bateau.
fin de cette édition. Bon après-midi, Anne, à demain.
Bon après-midi également, Benoît, et à demain. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous être fidèles. Merci à Antonin Dulé, à la réalisation. On se retrouve donc demain, 14h10, heure de Paris, 13h10, en temps universel. Très bonne journée à tous.